Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Comme toujours, vos réflexions et commentaires sont vivement attendus sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Faut-il bannir la viande pour éviter le cancer ? Lorsque vous mangez une belle tranche de jambon ou un simple steak haché, vous n'avez probablement pas l'impression de mettre votre santé en danger, et encore moins d'augmenter vos risques de cancer. Erreur, du moins si l'on en croit l'étude publiée le 26 octobre 2015, la consommation d'une tranche de jambon de 50 grammes par jour induirait un accroissement de 18% du risque de cancer colorectal. Avec un degré de certitude moindre, le fait de manger 100 grammes de viande rouge par jour conduirait à un accroissement de 17% de ces risques de cancer colorectal. L'étude conclut également à un lien entre la consommation de viande rouge et les cancers du pancréas, de la prostate et de l'estomac. Cette étude a provoqué un émoi certain dès la publication de ses résultats en Angleterre par le journal Daily Mail. Elle émane du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, installé à Lyon, qui a rassemblé un groupe de 22 scientifiques provenant de 10 pays pour analyser 800 études épidémiologiques. Les résultats concernent l'ensemble de la population mondiale puisque, suivant les pays, la part de la population qui consomme de la viande rouge varie de 5 à 100% et celle qui consomme de la viande transformée, comme le jambon, va de 2% à 65%. Les amateurs de viande mangent entre 50 et 100 grammes de viande rouge par jour en moyenne, et jusqu'à 200 grammes par jour pour les gros consommateurs. Ainsi, l'étude du CIRC, qui vient s'ajouter à celles qui ont évalué les risques de cancer induits par le tabac ou l'amiante, entre autres, pose la question de son impact possible sur le comportement des consommateurs de viande rouge et transformée. Au-delà de la panique, elle impose de se pencher sur la notion, d'accroissement du risque de cancer qui constitue le fondement de l'ensemble des études épidémiologiques dans ce domaine. Pour mieux comprendre cette étude et ce qu'elle nous dit sur notre consommation de viande, nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio Fabrice Pierre, qui est directeur de recherche de l'unité mixte Toxalim de l'INRA et de l'école vétérinaire de Toulouse. Jean-Yves Naud est médecin et journaliste sur le site Slate.fr, auteur du blog Journalisme et Santé publique, et il a suivi la publication de cette étude du CIRC et les différentes réactions qu'elle a provoquées. Enfin, nous sommes avec un membre du club Sciences Publiques, Pierre-Henri Gouillon, spécialiste de l'évolution, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Fabrice Pierre, bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous en duplex depuis France Bleu à Toulouse, vous nous entendez ?
Très bien.
Très bien. Eh bien donc, vous avez suivi de près cette étude du CIRC sur le lien entre consommation de viande rouge et transformée et cancer colorectal. Alors avant d'entrer dans son interprétation, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste exactement cette étude ? Comment elle a été élaborée ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose de nouveau ?
Alors, premièrement, ce qu'il faut bien préciser, c'est que cette étude est un bilan. Un bilan exhaustif de l'ensemble des études épidémiologiques, mais aussi expérimentales sur le thème. Et en ce sens, comme c'est un bilan, c'est rien de nouveau. En fait, ça vient en quelque sorte définitivement valider le risque qui avait déjà été proposé dans les conclusions des rapports du WCRF, le World Cancer Research Fund, qui est une association non gouvernementale, dès 2007, en 2011, et aussi repris au niveau national par l'Institut du Cancer en 2015. Donc oui, on valide un risque, mais il n'y a rien de nouveau en quelque sorte.
Très bien, on va préciser ce risque justement et la façon de le comprendre, parce que il est probable que ce n'est pas forcément évident à la première lecture. Jean-Yves Naud, bonjour.
Bonjour.
Donc dès le 23 octobre, vous avez réagi sur votre blog à l'étude du CIRC. Trois jours avant le communiqué officiel, la presse anglaise en faisait déjà mention.
Oui, alors ça intéresse les journalistes, c'est un petit peu anecdotique. Il se trouve que cette étude était prévue, annoncée pour publication le lundi à midi, mais que dès le vendredi, on a vu la presse britannique, et pas les titres les plus prestigieux, s'emparer de l'affaire et traiter de la question, ce qui a suscité d'ailleurs une réaction du CIRC immédiate en expliquant qu'il n'y avait pas eu de rupture d'embargo parce qu'il n'y avait pas eu d'embargo fixé. Tout ça n'est pas très important, si ce n'est que ça a permis sans doute aux différentes parties en présente, l'industrie de la viande d'un côté, éventuellement les responsables politiques et les autres médias, de se situer par rapport à la publication qui, elle, est survenue le lundi à midi.
Voilà, et ça a été donc publié dans le Lancet.
Alors, ça a été publié à la fois sous la forme d'un communiqué de presse sur le site du CIRC, qui est une institution qui dépend de l'OMS, et sur le site de The Lancet Oncology, qui est la revue savante du groupe Lancet qui a publié ce travail.
Pierre-Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
On va rentrer dans les détails, évidemment, de cette étude, mais à première vue, comme ça, première réaction sur le fait de relier la consommation de viande humaine avec la possibilité de survenue d'un cancer.
Alors bon, il y a énormément de choses à dire et je pense qu'on va essayer d'avancer un petit peu dans cette heure là-dessus. Mais premièrement, la question qui se pose, c'est si jamais on regardait tous les aliments un par un, qu'est-ce qu'on trouverait sur ce plan-là? Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Donc quand on isole comme ça le cas de la viande, moi je trouve que c'est toujours un peu embêtant parce que tout d'un coup, on fait peur aux gens sur un aspect particulier. C'est pareil qu'avec les chiffres, quand on dit 18%, je pense qu'on va en reparler, mais c'est 18% d'augmentation par rapport au taux de départ. C'est-à-dire que si le taux de départ, c'est 10% de probabilité d'avoir un cancer colorectal, et ben du coup, en mangeant de la viande, on a non pas 10%, mais 10% plus 18% de 10%, c'est-à-dire 11,8%. Donc on passe de 10% à 11,8%. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que ça augmente de 18% la probabilité elle-même. Donc voilà, il y a plein de choses à dire. Je pense que c'est une grosse difficulté dans toutes ces études, dans tous ces résultats quand ils sont donnés dans la presse. C'est comme quand on nous sort tout d'un coup qu'il y a eu un accident terrible sur la route et qu'il y a eu 3 morts. Il y en a en gros 10 par jour des morts et je me demande toujours pourquoi on choisit ces 3-là dans les infos. Donc il y a un problème, je trouve, de mise en avant de certains aspects qui sont intéressants. Et moi, en tant que biologiste, évidemment, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui est la cause du fait qu'on attrape un cancer, c'est d'abord le fait qu'on est vivant.
Oui, il était nécessaire de le rappeler.
Parce que de toute façon, je veux dire, il faudrait arrêter de faire croire aux gens que si jamais ils font très attention, ils deviendront immortels, quoi. De toute façon, on est mortel et le cancer colorectal est un cancer qui est très prévalent chez les gens âgés.
Fabrice Pierre, justement, c'est peut-être l'occasion, cette étude donc, qui est une synthèse, comme vous nous l'avez bien expliqué, de préciser sur quoi elle s'appuie, c'est-à-dire il y a beaucoup, à l'intérieur de ces 800 études analysées, d'études épidémiologiques basées sur des cohortes, et je pense qu'il n'est pas inintéressant de savoir un peu mieux comment ces études sont réalisées.
Alors effectivement, une grosse partie du travail du CIRC, donc cette organisation de l'OMS, est basée sur l'analyse des études épidémiologiques. Les études épidémiologiques sont des études qui vont suivre les grandes populations par rapport à un risque donné, donc dans le cas présent le cancer du côlon, et suivre la fréquence de ces 4 cancers du côlon en fonction des habitudes alimentaires. Et en fonction de ces, à partir de ces études, le WCRF, donc ce qui a été repris par le CIRC le 26 octobre, a effectivement observé que dans les pays dits occidentaux, il y avait un risque supérieur par rapport aux pays en voie de développement. Et une fois qu'on a retiré tous les biais possibles pour interpréter cet effet, un aliment qui reste est effectivement la surconsommation de viande. Parce qu'il faut tout de suite avoir un discours pondéré. Pour l'ensemble, la grosse partie de la population française, je dirais 75% de la population, on est à un niveau de consommation qui est sans risque. C'est important à rappeler.
Oui, en fait, on est en dessous de ces taux dont on parlait tout à l'heure, de 50 grammes de viande transformée et de 100 grammes de viande rouge par jour.
Ça, c'est l'étude, tout à fait. C'est important de le préciser parce que c'est l'étude 1K2 qui avait été menée par l'ANSES en 2008, qui suivait les niveaux de consommation. Et on est au-dessus du 500 grammes par semaine que vous évoquiez en début d'émission ou du 50 grammes par jour de charcuterie pour 25% de la population française. Effectivement, les travaux que je développe, en particulier à l'INRA, s'intéressent en particulier à cette population, les gros consommateurs de viande, parce que c'est une augmentation du risque pour les seuls gros consommateurs de viande.
Juste un mot sur ce type d'étude, c'est-à-dire c'est basé sur des déclarations d'un très grand nombre de personnes qui participent et qui sont suivies pendant un assez long moment. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça, justement, ce
Alors,
échantillon qui est concerné?
Il y a plusieurs types d'études épidémiologiques, les études cas témoins. On va prendre un cas, un malade, on va l'interroger sur ses habitudes alimentaires. Donc là, c'est des études qui sont un petit peu critiquables parce que comme la personne est malade, il peut y avoir des biais de mémoire par rapport à son alimentation. Il y a les études prospectives où là, on va prendre une population importante et on va suivre pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans ses habitudes alimentaires et suivre en parallèle la fréquence de ces pathologies telles que le cancer du côlon. Donc c'était deux grands types d'études et en parallèle, lorsqu'on travaille sur des aliments protecteurs, il y a aussi des études d'intervention. Mais on comprend bien que dans le cas de la viande, avec une hypothèse de promotion d'augmentation du risque, on ne peut pas mettre en place ces études d'intervention. Et en,
oui.
Et en parallèle aux études épidémiologiques, ce qui a aussi été intégré par le CIRC, les études expérimentales, en particulier les études dans les modèles précliniques, les modèles animaux, qui permettent là d'intervenir avec des aliments promoteurs tels que les produits carnés.
Alors voilà, on va arriver à ce moment-là de l'émission à préciser ce que ce résultat. Donc Pierre-Henri Gouillon a déjà commencé à le faire. Vous vouliez
juste un petit mot. Les études épidémiologiques nous disent la durée de vie des gens qui sont morts. Dire pas des vivants, et je pense que c'est un peu important parce que si jamais il y a des phénomènes globaux qui changent les choses, par exemple le fait que les générations actuelles sont des gens qui ont vécu dans un environnement quand même assez différent des générations qui sont mortes récemment, et ben ça peut complètement fausser ces résultats. C'est les statistiques pour les gens morts, c'est pas les statistiques pour les gens vivants qu'on peut connaître en épidémio.
Vous avez complètement raison. C'est pour ça que une seule étude, compte tenu des biais et un des biais que vous présentez est tout à fait véridique. C'est pour ça que le travail du CIRC est intéressant parce que c'est une méta-analyse, un bilan de l'ensemble des études présentes jusqu'à maintenant. Et en ce sens, elle corrige de nombreux biais et elle nous permet d'avoir un risque en quelque sorte, qui est un danger plutôt, un danger qui est définitif.
Alors voilà, ce danger définitif, donc il est fixé en particulier pour la... Parce qu'il y a une différenciation entre la viande rouge et la viande transformée. Donc la viande transformée, c'est tout ce qui a été traité, comme le jambon, le jambon de pays, les saucisses, le saucisson, j'imagine. Enfin, toutes ces préparations qui transforment la viande. Et donc, dans le cadre de la viande transformée, il semble que le risque de 18% d'augmentation du risque de cancer colorectal est à peu près certaine, alors que pour la viande rouge, l'étude est beaucoup moins catégorique. Malgré un résultat de 17% d'augmentation de ce risque pour 100 grammes de viande rouge consommée par jour. Alors comment vraiment comprendre ce que signifient ces 18% pour la viande transformée et ces 17% pour la viande rouge, Fabrice Pierre?
Alors comme ça a déjà été présenté en début d'émission, c'est une augmentation individuel de 18%, c'est-à-dire que le risque de chaque personne va être multiplié par 1,18. Donc tout de suite, première chose, on va pondérer les choses et comparer avec un autre facteur du risque évitable, qu'est le tabac, qui impacte donc, on le sait tous, le risque de cancer du poumon. Là, on augmente le risque de cancer du poumon de 500%. Donc viande, on multiplie par 1,18 et tabac, on multiplie par 6 le risque. Donc il faut tout de suite pondérer les choses. Donc deux choses à pondérer importantes, c'est un risque des gros consommateurs et c'est une augmentation qui est relativement faible, on le voit à travers cette comparaison qui est simpliste mais qui pose bien les choses. Donc une autre manière peut-être de voir les choses, c'est ce qu'on appelle fraction imputable, c'est-à-dire quel est le nombre de cancers du côlon qui sont détectés tous les jours en France que l'on peut expliquer par cette surconsommation de viande. En France, il y a tous les jours 115 à peu près 4 cancers du côlon qui sont détectés. Et les travaux anglais expliquent assez précisément qu'on peut imputer à peu près 16 à 18% des 4 cancers du côlon en Europe à la consommation de viande. Donc ça veut dire qu'en France, chez ces gros consommateurs, il y a à peu près 24 cancers de côlon qui sont explicables par cette surconsommation de viande. Donc on voit qu'au niveau sociétal, c'est quand même pas anodin et que c'est un problème à prendre en compte.
J'arrive donc. Mais il y a une autre manière de dire à peu près la même chose qui est peut-être encore plus parlante. C'est une petite publication que fait dans le dernier numéro de la revue médicale suisse le professeur Fred Paco, qui travaille à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne. Il écrit, en Suisse, on estime que sur 1000 hommes, 63 développent un cancer colorectal durant leur vie. Une consommation élevée de viande augmente ce nombre à 68, donc on passe de 63 à 68. Une consommation faible le diminue à 58 cas. Donc on passe à ce moment-là de 68 à 58. De 63 à 58. Ça permet comme ça de resituer un petit peu les choses. Mais en faisant la comparaison avec le tabac, qui montre bien à quel point là, il y a une très grande disproportion, on n'épuise pas pour autant le sujet. Le tabac, c'est le tabac. La viande, c'est la viande. Et quand les téléspectateurs, les spectateurs, les lecteurs de journaux ou de sites lisent ces chiffres, ils sont profondément émus et ils immédiatement remettent en cause leur comportement. Ou alors, ils nient, évidemment, ils nient la production scientifique et ils disent que la science, tout ça, n'a pas raison parce que si elle avait raison, on le saurait, etc., etc. Et le politique, face à ce phénomène, est lui aussi assez désemparé. Ce qui donne une situation très très confuse. Et au lieu d'apporter de la raison dans notre réalité un peu compliquée, je crois qu'on rajoute au contraire au brouillard.
Mais est-ce que justement, il n'aurait pas fallu présenter ce chiffre autrement ? C'est-à-dire, quand on dit une augmentation de 18% du risque, on a l'impression qu'il faut ajouter 18% au risque actuel.
Non, je ne pense pas. On peut toujours. Mais là, je pense qu'on sature très vite l'auditoire, parce que rentrer dans cette complexité de pourcentage, de risque relatif, de corrélation qui en est une sans en être une, d'études épidémiologiques, de cohortes, etc., très vite, vous pouvez passionner une fraction des auditeurs de France Culture, mais certainement pas la totalité. Et donc, là, je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire qu'on aurait pu demander au cirque, qui en l'espèce ne l'a pas fait, qu'on aurait pu demander à l'OMS, qui ne l'a pas fait, qu'on aurait pu demander aux différents instituts qui en France ont à voir avec la santé publique, qui ne l'ont pas fait, alors même qu'ils ont eu quelques jours pour réfléchir au sujet. Donc voilà, on est tous un peu collectivement dépassés par un phénomène comme celui-là.
Fabrice Pierre, comment vous imaginez que la meilleure solution pour informer le public sans induire une idée fausse, c'est-à-dire une augmentation vertigineuse du risque d'avoir un cancer colorectal quand on mange de la viande.
Ce qui est important de préciser, c'est qu'avant tout, le CIRC évalue des dangers. C'est-à-dire, je vais faire une comparaison assez simple, est-ce que je peux me faire écraser par une voiture ? La réponse est oui, évidemment. Et là, on a suffisamment de données pour dire que oui, la consommation importante de charcuterie et de viande rouge augmente le risque de cancer du côlon. Ils ont juste répondu à cette question. Est-ce que oui ou non, c'est vrai ?
Ils ont été un peu plus loin avec le 18%.
Ils ont été plus loin, je vais vous expliquer pourquoi ils ont été plus loin. Ils ont été plus loin parce que justement on est sur un aliment, parce qu'il y a cette réaction qui est forte de la population, parce que c'est un aliment lié au terroir, parce que c'est un aliment culturel en France qui est très consommé. Et c'est pour ça qu'ils ont été jusque-là. Et lorsqu'on va jusque-là, on s'aperçoit qu'effectivement, l'augmentation, elle est faible, elle ne touche pas tous les cancers et elle ne touche pas toute la population. Donc en fait, le travail du CIRC, c'est avant tout d'évaluer un danger, pas un risque, c'est-à-dire pas la fréquence de ce danger.
Alors voilà, oui, c'est ce qui est contradictoire avec ce qu'on vient de dire, puisque vous avez expliqué pourquoi ils ont été plus loin que simplement dire qu'il y a un risque. Ils ont spécifié ce terme, ce taux de 18% et de 17% pour la viande rouge, et c'est ça qui probablement pose problème d'interprétation. Fabrice Pierre.
La notion de fraction imputable, à mon avis, est plus facile à faire passer au grand public. Et quand on est sur si on fait le calcul rapidement, 24 cancers du côlon liés à la consommation de viande tous les jours, c'est à peu près, on va dire, entre 6500 à 7000 décès par cancer du côlon liés à la surconsommation. Donc ce chiffre-là, il est parlant au niveau sociétal. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est important de préciser que les travaux expérimentaux aussi permettent d'apporter des solutions à cette augmentation du risque. Des solutions nutritionnelles ou des solutions technologiques de façon à avoir un risque qui est tout à fait contrôlé et maîtrisé et de pouvoir continuer de se faire plaisir en mangeant de la viande de charcuterie parce que c'est un produit avant tout, enfin qui est aussi un produit plaisir.
On va y revenir.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Faut-il bannir la viande pour éviter le cancer ?» avec nos invités, Fabrice Pierre, directeur de recherche à l'INRA de Toulouse dans l'unité mixte Toxalim, Jean-Yves Nau, médecin journaliste sur le site Slate.fr et auteur du blog « Journalisme et santé publique » et nous sommes avec un membre du club Sciences publiques, Pierre-Henri Gouillon, spécialiste de l'évolution, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à l'AgroParisTech et à Sciences Po. Alors justement, Jean-Yves Nau, c'est ça la difficulté, donc c'est ensuite de voir quel comportement on peut avoir pour tenir compte, ou pas d'ailleurs, puisqu'on a la liberté de le faire, du résultat de ce type d'étude.
On peut élargir la focale. Cette affaire, puisque c'est une affaire, apparaît avec en toile de fond quelque chose que nous avons tous vécu, qui ont été les crises de la vache folle. Où on a bien vu que le fait d'associer la viande, l'animal, le bovin, la consommation de viande et un risque mortel, en l'espèce ça n'était pas un cancer, mais c'était aussi une pathologie neurodégénérative et mortelle, a beaucoup remué l'opinion, a modifié les comportements de beaucoup de consommateurs, comportements qui ensuite sont revenus à peu près à un niveau normal. Mais enfin, quand même, pendant plusieurs années, la filière, l'industrie les ministères de l'agriculture ont été secoués par cette affaire. Là, on revit un peu, mais en miniature, on peut dire, d'une certaine façon, ce phénomène. On ne touche pas impunément, on n'associe pas impunément la viande, ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui vient d'être dit par l'interlocuteur de Toulouse, la viande, sa charge symbolique, le plaisir qu'elle peut donner, ou la hantise qu'elle peut susciter, et on le voit dans les comportements d'aujourd'hui qui sont en développement, de végétaliens, de végétariens, etc., et le risque cancérogène qui est quand même dans les risques sanitaires parmi par risque mortel, c'est pas significatif de mort, mais enfin ça a quand même aussi là une forte charge symbolique. Associer les deux peut se faire, on l'explique, là encore, on explique les pourcentages, on explique les risques, mais le fait de lancer sur la place publique cette association avec l'estampille d'un travail scientifique ne peut pas se faire sans qu'on imagine les conséquences, et nous discutons actuellement de ces conséquences, il me semble qu'elles auraient pu être prévenues.
Fabrice Pierre, effectivement, vous nous avez rappelé tout à l'heure que finalement, il n'y a que 25% de la population française qui est concernée par cette augmentation du risque. Alors peut-être d'ailleurs, ça influence le risque global, si on considère que ce problème ne s'applique qu'à ceux qui surconsomment de la viande, c'est-à-dire au-dessus de 100 grammes de viande rouge ou de 50 grammes de viande transformée par jour. Là aussi, c'est quelque chose dont il faut tenir compte.
Tout à fait. C'est pour ça que les seuls messages de forte limitation de la consommation, voire d'éviction telle que c'est fait par les anglo-saxons, n'est pas la solution. Et par rapport à ce qui était dit juste avant vous, l'anticipation de la communication autour de ce travail, c'est quelque chose qu'on fait à l'INRA Toulouse depuis 15 ans, puisqu'on développe un projet pour trouver justement une alternative à ces messages d'éviction. Et en fait, on essaye de comprendre comment, au niveau nutritionnel, en rééquilibrant son régime, on arrive à limiter ce risque associé à la consommation de viande rouge et charcuterie.
Parce qu'il faut préciser qu'effectivement, et c'est là que peut-être l'étude n'est pas très transparente, les gens qui sont classés comme ayant surconsommé de la viande et donc ayant ce qui a provoqué un cancer colorectal, est-ce qu'ils ne mangeaient que de la viande? Est-ce qu'ils mangeaient de la viande avec d'autres aliments? Avec lesquels? Comment était le mix, comme on le dit pour l'énergie alimentaire dans ce cas-là? Est-ce que ces facteurs-là...
Est-ce qu'ils mangeaient les fameuses 5 fruits et légumes par jour en plus de la viande?
Absolument. Est-ce que l'étude va jusque-là? Est-ce qu'on peut en tirer des leçons de ce point de vue-là?
Les études épidémiologiques, lorsqu'elles interprètent des données, corrigent effectivement sur la prise de facteurs alimentaires, corrigent sur l'axe, le poids corporel, corrigent sur un très nombreux facteurs. Mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que cette augmentation du risque chez les gros consommateurs, elle est aussi associée à une moindre consommation de facteurs protecteurs. Et donc on s'est intéressé spécifiquement à cette question depuis quelques années, et on a travaillé au niveau expérimental et dans une cohorte nationale au statut antioxydant du régime, c'est-à-dire est-ce qu'il est suffisamment riche en antioxydants lorsqu'on consomme de la viande, et on s'aperçoit que si on augmente ce statut antioxydant du régime, on protège complètement contre l'effet promoteur de la viande rouge, c'est-à-dire manger suffisamment de fruits et légumes. C'est une incitation à rééquilibrer un petit peu son régime plutôt que d'avoir des messages complexes. On tombe sur un message presque simpliste, mais en final qui est assez efficace. Si on pense à son plateau repas et essayer de s'inciter à avoir la moitié sous forme de fruits et légumes et en parallèle une diminution de la fraction d'aliments carnés, on a un risque qui est complètement normalisé. Ça, on l'a montré dans les modèles précliniques et dans la cohorte 3N, qui est une cohorte de femmes gérée par Gustave Roussy.
Pierre Rigouillon, vous voulez intervenir?
Oui, non, je pense que c'est vraiment important ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire que si jamais on dit aux gens qu'avoir une alimentation équilibrée, ça suffit à régler le problème et qu'ils peuvent quand même manger de la viande, ça change tout par rapport à juste leur dire si vous mangez de la viande, vous augmentez votre risque de cancer. Donc je pense que c'est vraiment très bien ce qui vient d'être dit et que ça éclaire les gens.
Oui. Voilà, parce que le lien entre les deux, c'est peut-être, il faut le préciser, c'est que la viande a un caractère oxydant, qui est justement à l'origine de cette augmentation des risques de cancer, et que la consommation simultanée, ou du moins, je ne sais pas, dans la même journée, de légumes, a un effet inverse. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Fabrice Pierre.
Complètement. Alors c'est important que ça soit dans le même bol alimentaire. Je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent l'effet promoteur de la viande rouge, des charcuteries. On a beaucoup parlé de la cuisson barbecue. S'il est évidemment vrai que la cuisson barbecue génère des composés toxiques pour nos cellules, avant tout, et c'est les travaux qu'on a publiés au mois d'avril, là, on a montré qu'avant tout, c'est le fer, le rouge de la viande, le rose de la charcuterie qui est responsable de cet effet. Il est responsable de l'effet promoteur en oxydant les lipides de notre régime. Et une fois qu'on a dit ça, on identifie tout de suite un levier de prévention. Qui dit oxydation, dit antioxydant. Et donc effectivement, si on a suffisamment de fruits et légumes qui apportent des antioxydants, comme la vitamine E par exemple, on a une protection contre l'effet promoteur associé à la consommation de viande.
C'est-à-dire que même dans le cas de cette viande de barbecue, qui comme vous l'avez dit, était souvent stigmatisée, si elle est consommée en même temps qu'une certaine quantité, vous allez peut-être nous le préciser, de ces légumes antioxydants, même celle-là pourrait être non dangereuse.
En tous les cas, il ne faut vraiment pas inciter à avoir une consommation trop importante et trop régulière de viande barbecue. Mais en tous les cas, comme c'est un constituant de la viande avant tout qui est responsable de cet effet, quel que soit le mode de cuisson, il y a cet effet promoteur parce que c'est le fer, la myoglobine du muscle responsable de cet effet. Et donc par contre, si on va vers un discours assez simple, c'est-à-dire la moitié du plateau repas sous forme de fruits et légumes, parce que posez-vous la question, hein, quand vous mangez ce soir, si vous êtes à ça, c'est pas obligatoirement évident. Eh ben, si on a la moitié du plateau repas sous forme de fruits et légumes, on n'a pas d'augmentation du risque.
J'arrive donc.
Bon, d'abord, on n'est pas obligé de manger sur un plateau repas. C'est un point important. Je veux dire par là que le plateau repas laisse entendre que vous n'élaborez pas vous-même votre repas et vos mets et vos plats. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Mais en écoutant M. Pierre, j'ai envie de lui demander pourquoi est-ce que l'INRA n'a pas sauté sur l'occasion, au vu des travaux dont vous parlez. Pourquoi l'ANSES, l'agence spécialisée dans la protection de notre alimentation, ne s'est pas saisie du sujet pour précisément être positif et se servir de cette publication du CIRC, par ailleurs commentée, déniée, etc., etc., pour dire ce qu'un citoyen pouvait entendre positivement sur le sujet.
Fabrice Pierre.
Il y a eu une communication institutionnelle de l'INRA sur le site de l'INRA faisant référence aux travaux au mois de juillet 2015 et repris ce mois-ci. Et donc, j'ai eu une forte sollicitation médiatique ces derniers temps et le discours de l'INRA à travers mes propos était toujours en ce sens, c'est-à-dire une limitation du risque lorsqu'on a un régime équilibré. Et plateau repas, oui, je suis d'accord avec vous, c'est une traduction de plate en américain, puisqu'ils ont une belle communication qui est pour le coup assez efficace, The New American Plate, donc le nouveau plateau repas américain, pour expliquer sous forme iconographique ce rééquilibrage des fractions alimentaires.
Et la consommation devant un écran de télévision n'a pas d'impact sur le risque de cancer.
Ça, je pense qu'on n'en sait rien.
Voilà.
Je suis sérieux parce qu'on sait bien que le temps passé devant la télévision a un énorme impact sur la probabilité de devenir obèse. Pour des raisons que je pense qu'on ne connaît pas encore bien. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'il n'y ait pas des effets beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Avec les neurones miroirs, quand vous voyez un type qui court et que vous êtes assis dans un fauteuil, que fait la physiologie de votre corps? J'en sais rien et ça doit sûrement être compliqué.
Mais voilà. Parlons également du cerveau. Le fait de manger à plusieurs autour d'une table et sans écran de télévision et d'échanger et de parler, éventuellement même de ce que l'on mange, de ce que l'on partage, c'est à mon avis un impact bien plus important que d'être quatre sur un canapé à regarder un écran de télévision en train de grignoter après les arachides salés avec les boissons alcooliques qui y sont généralement associées, son plateau repas.
Voilà. Alors, pour être plus précis, parce que vous nous avez déjà donné des détails sur la constitution, on va dire, de ce menu, pour pas parler forcément de plateau, quand vous dites la moitié en viande et
non, la moitié en fruits et légumes, justement. Le reste, c'est pas que de la viande. Les patates, tu les mets de l'autre côté. Hein.
Est-ce qu'il est possible de parler en poids plutôt qu'en part? C'est-à-dire, en gros, si je mange 150 grammes de viande, ce qui n'est pas un poids excessif pour un steak ou un morceau de viande, l'accompagnement en légumes, puisqu'en général on met plutôt des légumes que des fruits avec les plats de viande. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et préciser justement quel est le plat équilibré au sens de neutraliser les possibilités d'augmentation du risque de cancer?
Alors c'est à la fois simple et compliqué parce que j'essaye à chaque fois moi de me baser sur des travaux étayés, démontrés et publiés. Et là évidemment on n'a pas, même si on a anticipé le problème, on n'a pas tester l'ensemble des aliments potentiellement protecteurs, mais ce que je peux vous dire, c'est que la vitamine E, qui est une vitamine liposoluble, qui est largement présente dans l'huile d'arachide ou dans certaines noix, est très très protectrice. Le curcumin, qui a été testé en l'ajoutant directement dans la charcuterie pendant sa fabrication, je vais vous expliquer pourquoi, est aussi particulièrement efficace. Tout ce qui est bêta-carotène, par contre, est plutôt à proscrire, on pourra en parler. Le bêta-carotène, lorsqu'il est utilisé surtout en supplément nutritionnel, augmente le risque de cancer du poumon chez les fumeurs. Mais en tous les cas, on peut dire que lorsqu'il y a une consommation de 100 grammes de viande rouge, à peu près 300-350 grammes de fruits et légumes sur l'ensemble du repas, mais il faut que ça reste dans le même bol alimentaire, sont suffisamment protecteurs pour apporter un niveau d'antioxydation efficace.
Donc, quels que soient les légumes, il n'y a pas de...
Je vais encore rester sur un discours assez simpliste, mais qui est assez efficace. Le plus important est de varier ces fruits et légumes pour justement avoir un statut antioxydant élevé et avec des molécules antioxydantes variées. Cette notion de régime varié est vraiment importante.
Alors vous alliez tout à l'heure nous préciser pourquoi vous nous dites que cette prise alimentaire doit se faire dans le même bol.
Alors tout à l'heure j'ai commencé à évoquer pourquoi les viandes rouges étaient promotrices du cancer du côlon. Parce qu'en fait, le fer de la viande rouge, il va oxyder les lipides de notre régime. Et donc, si l'antioxydant ne vient pas en même temps que l'oxydant, c'est-à-dire le fer, on n'aura pas une protection efficace. Parce que les réactions délétères, elles se font dans la lumière de notre côlon, à l'intérieur de notre intestin, en quelque sorte. Et donc, il faut que la prise alimentaire soit concomitante pour qu'on arrive à limiter l'effet promoteur.
Alors, simultané, ça veut dire qu'on mélange au moment de l'ingestion les deux ou bien...
Non, simultané veut dire dans le même repas.
Dans le même repas, donc c'est ça. Il y a quand même Jean-Yves Venot.
Oui, juste une petite correction, Michel. Le fruit peut être présent. Je pense en particulier au boudin noir grillé avec des pommes.
Mais c'est plus rare dans l'association.
C'est plus rare, mais ça ne coûte pas cher et ça peut être délicieux.
Non, mais ce qui est important, c'est que le fruit, finalement, pris en fin de repas, a cet effet sur le repas lui-même, d'après ce que vous nous expliquez, Fabrice Pierre.
Complètement. Donc, si on revient sur cette notion de ce que j'appelais de plateau repas, qui veut dire le repas dans son ensemble, et effectivement, que ça soit en crudité, en légumes accompagnants ou en fruits et légumes, l'efficacité sera la même. Mais encore une fois, la notion d'alimentation équilibrée et diversifiée, surtout au niveau des fruits et légumes, est importante. Oui.
Je pense que cette histoire de diversité, c'est vraiment important, et ça va bien au-delà d'ailleurs de ce qu'on est en train de dire là. La biologie, c'est quelque chose qui travaille avec de la diversité. Ça marche pas sans diversité à aucun niveau. C'est vrai pour notre alimentation comme pour le reste. Et à un moment ou à un autre, il faudra quand même bien qu'on dise que de toute façon, restreindre notre consommation de viande, ça ferait pas de mal à des tas d'autres niveaux qu'au niveau du cancer du côlon.
Il y a d'autres questions.
Il y a des tas de bonnes raisons de dire qu'actuellement, nos sociétés mangent trop de viande et que si on se restreignait un tout petit peu, ça ferait du bien au niveau global de la diversité, justement, du monde vivant sur notre planète.
Je voudrais aborder un point vraiment important. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de recommandations nutritionnelles, en quelque sorte. Il y a des recommandations, pour l'instant, qui sont des recommandations de limitation ou d'éviction. Là, on irait vers penser à rééquilibrer votre régime, le fameux 4 à 5 fruits et légumes par jour. Mais moi, j'ai un problème avec ça. C'est que ces recommandations nutritionnelles ne sont audibles, ça les travaux des sociologues l'ont très bien montré, que pour les CSP supérieurs, les catégories socioprofessionnelles supérieures, excusez-moi. Mmh. Et en fait, lorsqu'on s'intéresse aux catégories socioprofessionnelles inférieures, qui sont les plus gros consommateurs de charcuterie, on voit qu'il y a une réceptivité nulle, ou faible en tous les cas, au message d'éviction, en particulier au message de prévention par la nutrition. Et donc, en fait, en intégrant cette notion, on développe, donc toujours à l'INRA de Toulouse, un projet qui vise à optimiser la fabrication des produits carnés pour limiter le risque. On a différents leviers, via l'élevage, via les procédés de fabrication, pour intégrer des substances naturelles qui vont limiter cette fameuse oxydation liée au fer et ainsi avoir des produits qui ne vont pas augmenter le risque.
Alors, en attendant ces produits, est-ce que déjà il y a des différences entre les viandes existantes sur le marché? Donc il y a la viande que l'on trouve chez le boucher, il y a aussi les catégories de viande bio, les viandes cachères. Est-ce que ça crée une différence?
Alors, si on revient à l'hypothèse mécanistique que j'évoquais tout à l'heure, qui est le fer de la viande.
Moins il y a de sang, mieux c'est.
Alors, le fer apporté par la myoglobine du muscle, quel que soit en fait le sang présent, est suffisant pour induire la promotion. Donc, lorsqu'on comprend ça, on voit que ça soit de circuit court, de circuit traditionnel, j'allais dire malheureusement, le risque est le même.
Est-ce que on parle beaucoup de viande rouge, alors on pourrait se poser la question de la viande blanche. Quelle est la différence? Il y a également du sang dans la viande blanche.
Il y a de la myoglobine.
Justement, la myoglobine est en concentration beaucoup moins importante dans une viande de poulet que dans une viande de porc ou d'une viande de bœuf, ou encore plus dans du boudin qu'on évoquait tout à l'heure. Donc effectivement, l'étude épidémiologique, mais les études expérimentales menées aussi dans mon équipe, montrent qu'il n'y a pas d'augmentation du risque avec ce type de produit.
Juste une petite précision, oui, c'est donc l'ensemble myoglobine et hémoglobine dont vous parlez, c'est pas que la myoglobine.
Tout à fait, tout
parce
à fait.
Mais là, dans le boudin, c'est, bien, tout, c'est de l'hémoglobine, c'est pas de la myoglobine.
Tout à fait, c'est un produit très particulier, et effectivement... Avec le boudin, on a une augmentation qui est là pour le coup très importante si la consommation est régulière.
À cause de la forte concentration de sang et donc en fer.
C'est que du fer héminique en quelque sorte, hein, le boudin.
Jean-Yves Nau.
On voit bien que là, la science pure et dure, si je puis dire, croise beaucoup avec le symbole. Vous l'avez dit, viande cachère, viande halal, etc. La présence de sang, l'absence de sang, etc. Alors, la question que j'avais envie que je pose à monsieur Pierre, c'est ces travaux que vous faites pour, parlons des pauvres, hein, les CSP moins, avant on les appelait les pauvres ou les défavorisés, c'est une autre manière de dire la même chose. Au-delà de, alors si je comprends bien, vous travaillez pour faire en sorte qu'ils puissent avoir à leur disposition les aliments qu'ils souhaitent acheter, mais faire en sorte que ces aliments soient éventuellement moins dangereux. C'est bien de ça dont on parle.
Fabrice Pierre.
Mais vous postulez que les pauvres, donc, auront toujours envie de charcuterie, plus que les CSP+, les riches.
Fabrice Pierre.
Pour l'instant, les données de consommation sont factuelles. Effectivement, les CSP inférieurs mangent plus de charcuterie, on va dire en particulier hot dog. Et pâté que les CSP supérieurs, et surtout il y a une moindre réceptivité au message nutritionnel. C'est vraiment ça qui justifie la démarche de modifier les produits mis sur le marché.
Peut-être un mot justement sur ces produits que vous développez à l'INRA et qui intégreraient donc en gros ce qui n'est pas consommé par ces catégories, c'est-à-dire la fameuse association bénéfique qui annule ou qui supprime les effets oxydants de la viande. Comment intégrer dans la viande, donc si j'ai bien compris, cet effet-là?
Alors on va déjà parler du plus simple. La charcuterie, c'est une viande qui est processée avec de nombreuses étapes de process, de malaxage, transformée avec l'utilisation de la saumure, du sel nitrité. Donc on a beaucoup d'étapes où on peut introduire une molécule antioxydante. Et pour choisir ces molécules antioxydantes, on est parti des aliments qu'on avait identifiés comme protecteurs, et à l'intérieur de ces aliments, on a identifié les molécules les plus protectrices. Et parlons de l'exemple du tocophérol. Donc le tocophérol, c'est le nom scientifique de la vitamine E. Cette vitamine E, qui est une vitamine liposoluble que j'évoquais tout à l'heure, qui est présente dans l'huile d'arachide. En fait, on a montré que si on la rajoutait à dose sans conséquence sur le côté organoleptique du produit, on ne modifiait pas, on n'altérait pas le goût du produit, on avait une prévention totale dans les modèles animaux, les modèles précliniques, et une protection parfaite aussi dans l'étude chez des volontaires sains qui ont consommé ces charcuteries pendant plusieurs jours. Donc avec les charcuteries, c'est assez simple. On a des étapes de transformation qui sont suffisantes. Pour la viande rouge, c'est beaucoup plus compliqué, parce que pour un faux filet, on a beaucoup moins d'étapes de transformation. Donc on vise...
Il y a la production elle-même de la viande par l'animal.
Exactement, tout à fait. C'est une étape vraiment qu'on développe depuis peu, c'est modifier les conduites d'élevage, un peu à l'image de la filière bleu-blanc-cœur, pour utiliser cette modification de la ration de l'animal, et en particulier rajouter plus de tocophérol, pour avoir cette vitamine E directement intégrée dans le muscle du cochon ou du bovin.
Et où en sont ces travaux? Est-ce qu'il y a déjà des produits ou est-ce que quel est l'horizon
non.
pour que ces
non,
produits puissent arriver sur le marché?
Vous le savez, hein, malheureusement, le temps de la recherche académique, c'est pas le même temps que la recherche des agences, d'évaluation ou de la politique ou des industriels. Donc on n'en est pas encore là, on en est à la preuve de concept. On a acquis cette preuve de concept, on sait que cette modification elle est possible. Et avec la tocopherol, là où on a le plus d'éléments, je pense qu'on peut arriver dans quelque chose sur une échelle de 5 à 10 ans.
France Culture, Science Publique, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Faut-il bannir la viande pour éviter le cancer ?» avec nos invités. Fabrice Pierre, directeur de recherche à l'INRA de Toulouse, dans l'équipe Toc Salim. Jean-Yves Naud, médecin et journaliste sur le site Slate.fr. Et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à l'Agroparitech et à Sciences Po. Alors justement, là vous nous avez déjà ouvert une perspective sur l'avenir de la viande, c'est-à-dire une viande pallierait finalement le manque d'efficacité de l'éducation. Fabrice Pierre.
Alors effectivement, on a un message qui est bien entendu, on l'évoquait tout de suite par les catégories socio-professionnelles supérieures, mais oui, la modification des produits mis sur le marché, c'est quelque chose qui est largement proposé par les sociologues comme étant une solution tout à fait éthique, tout à fait efficace pour limiter un risque.
Pierre-Henri Gouillon.
Et vous parliez des pistes tout à l'heure qui pouvaient aussi agir fortement. C'est une piste que vous suivez beaucoup ou...
Sur le tocopherol que j'évoquais tout à l'heure.
Je ne sais pas moi, vous parliez de curcuma. Est-ce qu'en promouvant ce genre de pratique culinaire, vous pensez que ça serait facile à faire passer, effectivement ou...
bon. Fabrice Pierre.
Je pense en tous les cas qu'on aura une bonne réceptivité, ce qu'on évoque depuis tout de suite, là toujours au niveau des CSP supérieurs. C'est assez facile d'utiliser des nutriments protecteurs comme de la vitamine E, comme je le disais tout à l'heure, présente dans certaines huiles, ou du curcuma, qui est une épice qui est largement utilisée, de plus en plus utilisée. Donc oui, c'est tout à fait atteignable. Après, reste le problème de l'efficacité de cette recommandation, ce que je viens de vous préciser tout de suite, dans les CSP inférieurs.
Mais d'où vous parliez des hot dogs, par exemple, il y aurait moyen peut-être d'essayer d'inciter fortement les gens qui fabriquent ce genre de choses
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on parlait tout à l'heure de différence de réaction par rapport à la vache folle de la filière. Ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'il faut quand même le souligner, la filière, en fait, travaille avec l'INRA Toulouse depuis 2005 sur cette problématique. Il y avait une première crise médiatique en 2005 suite à la publication d'une étude épidémiologique dans le JAMA, une revue prestigieuse américaine. Et en fait, ils nous avaient contactés pour essayer de comprendre ce risque, voir s'il était vraiment effectif. À l'époque, c'était moins validé qu'aujourd'hui, et pour essayer de voir s'il n'y avait pas une solution. Effectivement, comme nous travaillons depuis 1997 sur la limitation de ce risque, on avait des solutions à leur proposer qu'on commence à explorer. Et tout ce que j'ai évoqué sur la modification des produits, on sait effectivement que c'est applicable au niveau industriel sans surcoût pour le consommateur. Mais maintenant, qu'on commence à toucher antioxydants et cancers, il faut absolument s'assurer qu'il n'y a pas d'effet délétère sur le très long terme. Donc en fait, maintenant, avant l'applicabilité sur le marché, c'est s'assurer cette absence d'effet délétère.
Alors avant justement d'en avoir la certitude, vous avez cité le curcuma qui est très souvent avancé comme étant le produit miracle contre le cancer. De votre point de vue, qu'en est-il? Et par exemple, peut-être aussi préciser quelles sont les consommations de cette épice qui ont un impact important.
Alors au niveau des niveaux de consommation, pour limiter l'effet, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on en est juste à la démonstration de l'effet dans des modèles animaux. Mais par contre, ce qu'on a montré, c'est que la consommation de viande rouge, elle est délétère pour le risque de cancer du côlon parce qu'en quelque sorte, comme une sélection darwinienne, elle va sélectionner les cellules rentrées au carcinogénèse par rapport aux cellules, à des cellules normales. Et avec ce curcumin, on va complètement réverser ça et on va cibler les cellules précancéreuses, les cellules rentrées en carcinogénèse et protéger les cellules normales. Donc en fait, le curcuma réverse complètement l'effet délétère de la viande. Après, on n'en est vraiment pas à des niveaux de consommation. On ne peut vraiment pas préciser ça pour le moment.
Donc on ne peut pas avoir une idée, oui, de la quantité nécessaire. Est-ce que c'est simplement la présence de cette épice qui a cet effet-là ou est-ce qu'il y a nécessité d'une certaine quantité pour avoir le résultat que vous venez de citer?
Ah oui, il y a évidemment une notion de quantité qui est importante. Ça reste les questions auxquelles on doit répondre, la formulation, la quantité, la concentration la plus pertinente avant d'établir de recommandations précises.
Est-ce qu'il y a d'autres produits du même, avec le même pouvoir, ou est-ce que cette épice, le curcuma, a un rôle très spécifique et assez unique ?
Non, justement, en ce moment, on essaye d'utiliser cette capacité de protection des cellules normales et d'effets toxiques sur les cellules prénoplasiques pour identifier les nouveaux agents de prévention. On a identifié certains polyphénols, comme l'extrait de grenade, les extraits de vin rouge, certaines molécules qui sont présentes dans ces aliments, qui sont protectrices. Donc effectivement, j'entendais une petite réaction là,
oui, il faut boire du vin rouge avec la
à la consommation du vin rouge, mais effectivement...
Et le vin rouge a le même effet que l'extrait de vin rouge, ou bien est-ce que ce sont deux choses différentes ?
Non, le vin rouge a le même effet, mais toujours est-il que alcool et cancer, il y a aussi de grandes associations. Donc avant de communiquer sur consommation d'alcool pour limiter le risque de viande rouge, vous comprendrez qu'il faut être tout à fait précautionneux.
Jean-Yves Nou.
Moi, je crois qu'on aborde là une autre dimension qui est passionnante, c'est-à-dire nous parlons de science, nous parlons de comportement alimentaire, de risques cancéreux, etc. Puis d'un seul coup, on dit, oui, mais attendez, ces risques, ils sont très variables selon les catégories socio-professionnelles auxquelles on appartient. Et effectivement, cette affaire cirque, viande rouge, cancer, etc., a été immédiatement prise par une certaine catégorie de la population, celle qu'on retrouve assez souvent dans les médias, c'est-à-dire des CSP+, qui se sont emparés de la chose pour dire « c'est bien la preuve que nous avions raison ». Et je pense en particulier à tous les tenants du bio, comme on dit assez simplement, du végétarisme ou du végétalisme. C'est-à-dire, nous avions, nous, pressenti que ce danger existait et notre comportement alimentaire, qui est le propre de catégories socio-professionnelles plus, et la démonstration de notre comportement. Nous avions pressenti ce risque cancéreux. Voilà. Sans en voir la preuve scientifique, nous pressentions que, idem pour ce qui est du vin bio qui est meilleur que l'autre, etc., etc. Donc, il y a une appréhension par les riches d'une réalité scientifique qui, elle, est encore en devenir, d'une certaine façon.
Fabrice Pierre, est-ce que ça conduit effectivement à renforcer la position de ceux qui prônent l'arrêt de la consommation de viande ? On sait que pour la planète, et c'est l'actualité avec la COP21, la viande est aussi sur la sellette.
La réduction. Hein. Je crois
la réduction.
Si on veut une agriculture durable, quelques animaux font du bien dans les fermes quand même.
Pour certains mouvements, c'est plutôt l'arrêt. Est-ce que justement on peut renverser le problème et dire que... quoi dire sur un arrêt complet de consommation de viande ?
Alors là, en final, on va être plus sur un choix de vie, une philosophie de vie, qu'est le végétarisme, parce qu'il y a un choix de vie respectable, mais qui ne va pas être la solution pour faire disparaître le risque de cancer du côlon, parce qu'on l'a rappelé tout au début de l'émission, le facteur de risque le plus important pour le cancer du côlon et d'autres cancers, c'est le vieillissement. Et quand on parle de facteur de risque évitable qu'est la viande rouge, effectivement, en l'évitant, on diminue son risque, mais on ne fait pas disparaître le risque. Il n'y a rien d'inéluctable. Donc non, le végétarisme est un choix de vie qui est tout à fait respectable, qui est en final pas associé à tant de carences que ça, mais qui n'est pas la solution par rapport à la question qui nous intéresse aujourd'hui, le classement du CIRC.
Donc certes, mais bon, ça peut être une réaction à cette notion de risque et une peur qui est engendrée par cette notion de risque, même si on a essayé de le spécifier de façon aussi précise que possible pour éviter cette réaction excessive. Donc c'est une réaction dont il faut savoir si elle a un impact justement sur le côté nutritionnel, sur le côté santé humaine. Pierre Rigouillon voulait intervenir.
Oui, je voulais juste en profiter pour faire remarquer que pour un biologiste de l'évolution, il y a une certaine logique là-dedans, hein, même si on a des origines chasseurs-cueilleurs sûrement, et donc nos ancêtres mangeaient de la viande. Mais des maladies qui s'expriment aussi tard que ça dans la vie ne sont pas soumises à sélection, en gros. Hein. Vous ne pouvez pas espérer que la population s'adapte par sélection à des questions comme celle-là, alors que ça touche des gens qui sont en général largement au-delà de l'âge de la reproduction. Et donc la sélection ne peut plus agir sur ces aspects-là de la santé.
Donc il faudrait que ce soit des régimes beaucoup plus tôt.
Voilà, on peut changer notre environnement, etc. Mais espérer que la sélection naturelle nous adapte à notre environnement quand il s'agit de maladies qui touchent des gens âgés, c'est pas envisageable.
Bon, ce que nous explique Fabrice Pierre, c'est qu'on peut continuer justement à manger de la viande sans mettre en danger sa santé, sous réserve de toutes les précautions et toutes les associations que vous nous avez citées, Fabrice Pierre.
Tout à fait, c'est vraiment important de rappeler que dans le cas d'un régime pauvre en viande, déjà, il n'y a absolument pas de risque. Ou d'un régime raisonné, 75% de la population, il n'y a pas de risque. Et pour les personnes qui en mangent peu, il faut inciter à diminuer la fréquence et la taille des portions, mais surtout à rééquilibrer le régime. C'est une notion qui est vraiment importante parce que chez ces gros consommateurs, il y a une déficience en aliments protecteurs. Et diminuer la taille et la fréquence et associer à une augmentation de la taille des portions des aliments protecteurs, donc en gros fruits et légumes, pour résumer, on arrive à un message qui est tout à fait, je pense, posé, mais qui est suffisant pour limiter le risque.
L'autre message étant de ne pas fumer en mangeant de la viande.
Surtout si on n'a pas prévu de légumes suffisamment.
Et surtout si en mais plus même si on a prévu des légumes, il ne faut pas fumer.
De toute façon, si en plus on boit
plein d'alcool avec, ouais, c'est ça.
Alors, je trouve que ce qui est intéressant, sauf du vin rouge, qui a,
mais très peu,
peut avoir un effet positif, on voit que là, on est parti d'une étude qui était plutôt, a priori, inquiétante, avec un chiffre spectaculaire. 18%, c'est pas rien. Et finalement, grâce à vos explications, on se rend compte qu'en gros, il suffit d'équilibrer ses repas, de trouver les composants dans le repas qui vont annuler l'effet dangereux de la viande, lié à la viande, et que finalement, il n'y a pas de quoi prendre des mesures drastiques, interdire la viande, être très inquiet pour son avenir et sa santé.
Et si, il y a toute raison d'être très inquiet pour son avenir et sa santé, mais pas celle-là.
Voilà. Fabrice-Pierre, on aura au moins éliminé une raison de s'inquiéter pour le futur. C'est bien ça.
En tous les cas, effectivement, on a suffisamment de leviers de prévention dans notre régime, dans nos modes de vie. En parallèle, on peut rappeler que l'activité physique, c'est quelque chose qui est particulièrement protecteur contre le risque de cancer du côlon. Donc, mode de vie et alimentation plus équilibrée sont tout à fait pertinents pour limiter ce risque.
Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que les communiqués concernant ce type d'études sont quand même, pourraient être améliorés en termes de messages adressés à la population, Fabrice Pierre ?
Ben, effectivement, c'était la première fois quasiment que le CRC établissait un risque, en tous les cas la première fois au niveau 1, pour un aliment. Quand c'est un facteur de risque comme le tabagisme ou un contaminant chimique, on comprend tout à fait la communication du CIRC, qu'elle soit équivalente à celle qu'elle était telle que le 26 octobre. Mais quand c'est avec un aliment, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui a un intérêt nutritionnel, les protéines de haute valeur, le fer, certains micronutriments, qui est largement consommé, là c'est beaucoup plus compliqué. Il aurait fallu plus insister sur le fait que le classement en 1 était basé sur une analyse du danger et pas de la fréquence du risque.
Jean-Yves Nau.
Oui, je partage tout à fait ce que vous dites, mais je vais peut-être me contredire par rapport à ce que je disais en début d'émission. Est-ce que c'est au CIRC de faire la pédagogie médiatique du travail qu'il mène? Ou est-ce que ce sont aux médias de comprendre ce que nous dit le CIRC? Ça, c'est un vrai sujet. Et ou pire, pour comment comprendre le silence politique sur une production comme celle-là?
Apparemment, le ministre de l'Agriculture s'est exprimé.
Le ministre de l'Agriculture a dit que non seulement on pouvait, mais que l'on devait manger de la viande. Mais les ministres de l'Agriculture sont dans leur rôle. Les différents ministres de l'Agriculture, lors des crises de la vache folle, ont tenu exactement le même discours. On ne peut pas en vouloir au ministre de l'Agriculture de tenir ce discours-là. En revanche, d'une manière générale, je crois qu'on reste trop dans du binaire, blanc-noir, il faut manger, pas manger, etc. Et puisque nous parlons d'alimentation, l'autre levier formidable, outre l'éducation, qui est un levier, à mon avis, beaucoup sous-estimé, apprendre aux enfants à l'école ou à la maison à manger, etc. Il y a le plaisir de manger, le plaisir de partager, le plaisir d'élaborer son repas, ses plats, etc. Et ça, c'est un outil formidable qui nous éloigne de la recommandation, de l'interdiction, du danger.
Eh bien, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Fabrice Pierre, Jean-Yves Naud et Pierre-Henri Gouillon d'y avoir participé. Sur notre site, vous trouverez un lien avec l'annonce de l'étude du CIRC sur la relation entre consommation de viande rouge et transformée et cancer, en particulier le cancer colorectal, dont nous avons parlé aujourd'hui. Toujours sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours et la podcaster pendant un an. Et bien entendu, nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 20 novembre, nous aborderons la question de l'éolien en mer, qui n'existe toujours pas en France, à travers un projet, celui de Dieppe-Le Tréport. Et à l'occasion de la fin de l'étude réalisée par la Commission du débat public sur ce sujet, nous verrons ainsi l'équilibre souvent difficile à obtenir entre l'intérêt de développer une production d'énergie renouvelable par l'éolien et les impacts environnementaux et sociétaux qu'engendrent les projets de fermes en mer. Sciences Publiques, Dany Journeau, Ariane Herbé, Marie Dalquier, Michel Albergantin.